question, en fait, du livret qui retiendra surtout notre attention ce matin. Au chapitre 12, nous lisons ces promesses magnifiques. « Et tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui et je n'ai plus de crainte. Car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi avec joie vous puiserez de l'eau aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier on les connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui, le Saint d'Israël. » Nous allons encore demander au Seigneur de bénir notre temps d'étude ensemble. Est-ce que Madame Donzel voudrait nous conduire dans la prière ? Amen. Nous avons jeté un coup d'œil la dernière fois sur ce que nous apprend la Bible concernant la personne et le temps du prophète Ésaïe. Vers l'an 740-739 avant Jésus-Christ, un jeune crack de la classe dirigeante de Jérusalem qui se préoccupe de la situation de son peuple, de l'état des mœurs, du déclin spirituel, mais aussi de la situation politique, car l'ogre assyrien, la grande puissance de ce temps-là, qui s'était assoupi pendant quelques dizaines d'années, se réveille et constitue une menace terrible à l'horizon des petits peuples du Moyen-Orient. Alors il y a déjà des alliances qui se nouent, qui se font, qui se défont, et le pouvoir royal à Jérusalem ne paraît pas très solide. Il y a encore un vieux roi, mais qui est lépreux, Ozias. Son fils, qui est co-régent, ne semble pas une très forte personnalité, Jotham. Son petit-fils, lui, semble un homme très doué, efficace pour l'action politique. Seulement, il est l'homme de l'alliance avec les Assyriens. Une chose que tout fidèle de l'Éternel à Jérusalem ne peut que considérer avec horreur, parce qu'une alliance politique avec une puissance comme l'Assyrie, cela veut dire aussi des compromis en matière de culte, en matière de religion. Et c'est à ce moment-là que ce jeune homme, Yoshiyahu, Ésaïe, transcrit en français, reçoit une vision de Dieu dans le temple de Jérusalem. Il contemple la majesté du Dieu qui est trois fois saint, 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 et le Seigneur, l'Éternel des armées, c'est-à-dire le Seigneur de l'univers entier. Et Dieu lui confie, en ayant purifié ses lèvres, une mission étrange, lui annonçant que ce sera très difficile, très très dur, que ce sont des temps troublés que le peuple va connaître avec beaucoup de dévastation. Et nous allons considérer maintenant la première grande tranche de prophétie du ministère fort long que cet Ésaïe a rempli depuis 740 ou 739, l'année de la mort du roi Ozias, jusque sans doute vers 695, 693 peut-être, peut-être même encore un peu plus bas, au moment où le petit-fils d'Arase Manassé était sur le trône. Nous avons trois séances à consacrer à l'ensemble du livre d'Ésaïe, qui est le plus grand de tous les livres de la Bible. Donc c'est bien peu, nous sommes obligés de sélectionner, de survoler. Le livre d'Ésaïe a 66 chapitres, autant que la Bible tout entière compte de livres, et nous allons normalement couvrir cet ensemble aujourd'hui, au mois de mai et au mois de juin. Au mois d'avril, l'Institut biblique sera un institut biblique commun, et je ne serai pas là, je suis en voyage, donc nous n'aurons pas de leçons sur Ésaïe, et ce sont les trois séances avant l'été, y compris celle d'aujourd'hui, qui seront consacrées à l'ensemble du livre. Aujourd'hui, je voudrais que nous considérions les prophéties qui commencent au chapitre 2 et qui vont très loin dans l'ensemble du livre. Il y a plusieurs grandes sections qui sont concernées, mais en nous concentrant sur celle qui annonce la venue d'Emmanuel. Nous allons en parler avec un peu plus de détails que du reste. Mais je vous montre pourquoi je dis à partir du chapitre 2 et pas à partir du chapitre 1er. Parce qu'en fait, dans le bloc de ce livre, le chapitre 1er est une sorte d'introduction qui correspond au chapitre de la fin. On a remarqué qu'il y a une correspondance dans le vocabulaire choisi qui est tout à fait significative entre le premier chapitre et les deux derniers. Ce qui prouve que le premier chapitre a été écrit à la fin. La collection complète ayant été faite des prophéties d'Ésaïe, il a fait une introduction pour convenir à l'ensemble. Mais vous savez, c'est souvent comme ça quand on écrit un livre, on fait l'introduction en dernier lieu. On n'écrit pas d'abord ce qui se lira d'abord, mais souvent on l'écrit tout à la fin, quand on a une idée bien nette de l'ensemble. Ce qui veut dire que le chapitre premier ne vient pas de la première partie du ministère de ce prophète, mais au contraire de sa toute dernière. Comme le prouvent ces associations de vocabulaire si nettes entre le début et la fin. Alors c'est à partir du chapitre 2 qu'il y a le premier gros morceau. Le premier gros morceau, c'est l'ensemble des chapitres 2 à 12. Et vous pouvez d'ailleurs voir qu'au début du chapitre 2, il y a un titre. C'est le titre de la première collection des prophéties d'Ésaïe. Vous avez au début du chapitre 2, j'utilise aussi la Bible du Semeur, c'est celle que j'ai apportée aujourd'hui. Voici le message que Dieu a révélé à Ésaïe, fils d'Amoz, au sujet de Juda et de Jérusalem. Vous avez un premier ensemble qui commence au chapitre 2 et qui semble bien correspondre aux prophéties qui ont été données à Ésaïe quand il était encore assez jeune. Alors je vais jusqu'au chapitre 12, mais nous allons distinguer à l'intérieur encore des éléments différents. Après le chapitre 12, vous avez une grande section qui, au lieu d'être sur Juda et Jérusalem, comme 2:12, concerne essentiellement, avec une exception qu'on peut expliquer, les peuples étrangers. Chapitre 13 à 23, vous avez un nouveau bloc qui vient sans doute de la jeunesse du prophète, mais peut-être aussi d'autres périodes de sa vie, qui concerne les nations voisines, plus ou moins voisines. Cet ordre, un ensemble sur les nations, après des prophéties qui s'adressent d'abord au peuple, on le retrouve dans d'autres livres prophétiques d'ailleurs. Vous retrouvez ça chez Ézéchiel par exemple, et dans l'ordre de Jérémie aussi, si vous prenez l'ordre qu'on a conservé en Égypte, parce qu'il a été modifié dans les manuscrits qu'on gardait en Babylonie et qui ont donné lieu à la numérotation au chapitre que nous avons dans nos Bibles. Donc un deuxième bloc qui est un bloc de prophéties contre les nations, Moab, Ammon, etc. Ça nous intéresse un peu moins, avouons-le, que celle qui concerne le peuple de Dieu directement, parce que nous sommes les héritiers directs du peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, par la grâce de notre adoption, alors que ces nations dont Ésaïe prophétise surtout les jugements ont pour la plupart disparu Mais il y a des choses intéressantes quand même dans cet ensemble, mais nous nous attarderons beaucoup moins, il faut faire des choix. Puis vient une assez longue section, de 24 à 35, qui semble regarder un peu plus loin que les prophéties antérieures, bien qu'elles regardent loin aussi, qui souligne les grands bouleversements que Dieu va produire, qui entrelace divers grands thèmes. Il y a des prophéties à court terme, il y a des prophéties à long terme, mais le thème du grand bouleversement que Dieu opère est sans doute le thème qui fait l'unité de cette section assez diverse, qui est la section 24 à 35. Et elle commence, si nous avons le temps, nous en dirons quelques mots, elle commence par un ensemble, 24 à 27, les chapitres 24 à 27, qui est très très beau, où apparaît clairement le thème du conflit des deux cités. Vous savez que saint Augustin, ce père de l'Église auquel nous devons tant, a écrit un livre intitulé « La cité de Dieu » qui montre comment toute l'histoire est l'histoire du conflit de la cité terrestre, qui est la cité du péché également, et puis la cité de Dieu, dont l'Église est la représentante sur la terre. Dans la Bible, vous avez déjà ce thème, dans l'Apocalypse de Jean, il intervient aussi très fortement. Babylone, Babylone la Grande, la cité païenne, et puis Jérusalem, la Jérusalem de Dieu. Et le thème, même s'il est déjà antérieur dans la Bible, on peut le voir se dessiner dès l'histoire de la tour de Babel, car Babel c'est Babylone, hein, c'est le même mot dans l'original, ce thème apparaît vraiment pour la première fois dans ces chapitres 24 et 27 d'Ésaïe, comme un thème développé, un thème que le prophète orchestre en quelque sorte. La cité du chaos, la cité du néant, la cité de l'orgueil païen, et puis en face, la cité de Dieu. Donc une section sur les grands bouleversements, puis un intermède, quelques chapitres qui sont un récit de ce qui est arrivé dans les dernières années du siècle, du 8e siècle, le siècle où principalement Ésaïe a vécu, puis il a débordé sur le 7e siècle, comme je vous l'ai dit, mais il a surtout vécu au 8e siècle, avant Jésus-Christ. Dans ces dernières années, il y a eu une crise, nous allons peut-être encore en reparler, au temps du roi Ézéchias, il y a eu la maladie d'Ézéchias, il y a eu une ambassade venue de Babylone, et il y a eu surtout la grande invasion assyrienne, le siège de Jérusalem, et une délivrance miraculeuse de Dieu. Et cela nous est raconté dans les chapitres 36 à 39. Donc, un intermède historique, où vous trouvez d'ailleurs presque l'équivalent de ce qu'on a dans le livre des rois. Les mêmes chapitres se retrouvent presque tels quels dans le livre des rois. Probablement, l'éditeur du livre des rois a utilisé le texte d'Ésaïe, ou un mémoire que Ésaïe avait fait sur cette période, pour l'inclure dans le livre des rois. Donc, intermède historique. Et puis enfin, 40 à 66... Vous avez des visions qui paraissent à plus long terme et qui sont très riches et développées, que sans doute Ésaïe a composées, a reçues comme vision, et puis qu'il a composées, mises par écrit, de manière très méditée, très mûrie, dans une sorte de retraite, plus âgée. Alors, dans cet ensemble 40 à 66, il y a d'abord un certain nombre de prophéties où le thème du serviteur est au premier plan. Et parmi ces prophéties, il y en a qui concernent un personnage particulier, le serviteur appelé à souffrir, le serviteur de l'Éternel, serviteur souffrant, qui est à coup sûr, le Nouveau Testament nous le montre sans la moindre hésitation, qui est à coup sûr notre Seigneur Jésus lui-même. Alors ces passages sont très importants pour notre foi, et nous devrons nous arrêter sur eux. Mais après ces passages, il y a encore, jusqu'au chapitre 66, beaucoup de grandes et belles prophéties. Alors, grosso modo, je compte qu'aujourd'hui, nous survolions ceci avec accent sur ce premier livret. Et puis, que lors de notre institut biblique de mai, nous considérions surtout les prophéties du serviteur dans la première partie de cet ensemble 40 à 66, et puis que dans la dernière partie, nous voyons le reste, pour boucler ce qui sera donc un grand survol du livre d'Ésaïe. Alors aujourd'hui, donc, nous prenons la situation telle qu'elle apparaît au moment où Ésaïe est appelé au ministère. Il est encore tout jeune, il a eu la vision de la gloire de Dieu dans le temple. C'est Ozias pour quelques mois qui est encore le roi, mais il va mourir, Jotham va lui succéder, et peu après, Ahaz va prendre le pouvoir, effectivement. Ahaz, ou Akaz si vous préférez, mais ça se prononce en hébreu Ahaz. Ahaz est le fils de Jotham, et il va effectivement, en 736, par une sorte de révolution de palais, coup d'État, prendre le pouvoir pour mener sa politique d'alliance avec les Assyriens. Alors dans cet ensemble, 2 à 12, vous avez d'abord les tout premiers chapitres, 2 et suivants, 2 à 5 si vous voulez, qui sont intéressants à lire, qui contiennent divers thèmes, surtout la dénonciation des péchés qui se commettent couramment sur le territoire de Juda, également l'affirmation que Dieu va se réserver un reste, nous voyons déjà ce thème apparaître, la dénonciation de l'orgueil humain, c'est un thème qui est tout à fait marqué chez Ésaïe. Ésaïe, peut-être parce que venant lui-même d'une famille de l'aristocratie, peut-être de la famille royale, il se savait tenté par l'orgueil et par la suffisance de quelqu'un qui a beaucoup de dons et de richesses. Ésaïe est le prophète qui s'attaque de la manière la plus vive et constante à l'orgueil humain. Et cet orgueil humain qui se manifeste dans la confiance en soi que l'on a. Je suis capable de résoudre tous mes problèmes. Oui. Celui qui s'appuie sur l'humain, croit que c'est un fondement solide pour bâtir, qu'il a les ressources pour triompher, celui-là va au-devant de la ruine, de l'écrasement. Et l'antidote de cette attitude d'orgueil, c'est la foi, la simple confiance en Dieu. Celui qui met sa foi en Dieu cesse de se confier en lui-même. Il sait qu'il est lui-même inadéquat, incapable de résoudre les problèmes qui sont devant lui. Il s'en remet à Dieu. Il s'appuie sur Dieu seul. C'est un thème qui apparaît dès le chapitre 2, avec un refrain, l'orgueil des humains, le regard hautain des humains sera abaissé, dans cette partie initiale du livre d'Ésaïe. Mais il n'y a pas d'oracle très particulier, très précis pour annoncer des choses à venir, sinon de manière assez générale, qu'il y aura fatalement des jugements et que Dieu a son plan. Et puis au chapitre 6, alors, nous avons le récit de la vocation que nous avons considéré la fois dernière, le récit de la vision dans le temple. Il n'intervient pas tout au début, parce que sans doute les chapitres 2 à 5 étaient là pour montrer dans quelle situation le jeune Ésaïe avait été appelé par Dieu, mais nous avons déjà parlé du chapitre 6, donc nous n'y revenons pas. Et alors nous avons, après cela, l'ensemble 7 à 12. L'ensemble 7 à 12, qui est très très habilement construit, c'est un ensemble bien composé, dont nous avons lu donc la fin, puisque nous avons lu le chapitre 12. Cet ensemble-là se caractérise par le retour de certaines images typiques, par exemple. L'image de l'arbre qu'on abat, mais aussi du rejeton qui pousse, de la souche qui reste en terre. Cette image était apparue à la fin du chapitre 6, nous l'avions déjà notée, et elle est caractéristique de ces chapitres 7 à 12. L'arbre, le cèdre du Liban, le grand térébinthe, représente bien l'orgueil humain. Et l'annonce du jugement, donc, c'est faite sous la figure de la hache, du bûcheron qui abat cette, ce grand arbre orgueilleux. Mais la grâce de Dieu se manifestera par l'émergence d'une petite pousse qui rejaillira de la base de ce tronc coupé. Ça, c'est une des images qui revient. Une autre image qui revient, qui est intéressante, c'est celle de l'eau, des eaux. D'une part, les eaux sont un symbole de jugement. Les grandes invasions, l'invasion de l'Assyrie, au chapitre 7, est présentée comme une inondation qui va couvrir le pays. Mais d'autre part, les eaux sont aussi présentées comme la source de la vie. En fait, c'est bien comme ça, hein. L'eau, elle peut avoir des effets dévastateurs, terribles, et être synonyme de mort, et en même temps, elle est indispensable à la vie. On sait bien que c'est de l'eau que renaît la vie. Alors, le prophète Ésaïe joue sur cette valeur symbolique double de l'eau, et en particulier, c'est au chapitre 8, il joue de l'opposition entre deux sortes de courants d'eau. Le courant tumultueux, puissant du grand fleuve qui s'écoule avec fracas, ça représente la puissance des Assyriens, qui constituent le grand empire avec une puissante armée. Et le roi Ahaz est fasciné par ces eaux bruyantes, et il veut s'allier avec la Syrie. Et puis, à l'opposé, alors, le prophète Ésaïe parle des eaux tranquilles qui coulent tout doucement de Siloé, les eaux de Jérusalem, les eaux qui représentent cette foi tranquille et discrète en Dieu qui a choisi Jérusalem et qui veut lui être fidèle. Ça aussi, vous voyez, c'est un élément du jeu sur le symbolisme de l'eau qu'on a dans ces chapitres. Il y a aussi le thème associé à l'eau, d'ailleurs, de l'Exode. Dieu, une première fois, a agité la main pour faire s'arrêter les eaux de la mer des roseaux et pour délivrer son peuple. Lors du premier Exode, eh bien, Dieu va rééditer ses exploits. Le langage de l'Exode est repris comme il l'avait été déjà par des prophètes antérieurs à Moïse. Osée avait parlé, nous l'avons dit, du nouvel Exode que Dieu allait opérer. Et puis, il y a aussi une image qui est très intéressante, qui ne revient pas souvent dans 7 à 12, mais qui sera reprise plus tard dans le livre. Alors, je la mentionne aussi, parce que c'est intéressant de voir que le prophète Ésaïe a joué comme ça d'un jeu d'images clés, images qu'il affectionnait et très significative, c'est l'image, je dirais, de l'autoroute. On ne s'est pas traduit comme ça dans nos Bibles, même dans la version très moderne donc, du Semeur, mais je dirais que ce serait vraiment l'équivalent. Et c'est traduit route quand même, route. C'est un mot qu'on trouve à la fin du chapitre 11, il y aura une route pour ceux de son peuple qui resteront, qui demeureront encore en Assyrie, comme il y eut jadis une route pour Israël quand il sortit d'Égypte. Ça veut dire une chaussée remblayée. C'est un mot spécial en hébreu. Ce n'est pas simplement le chemin, mais, et même pas seulement, une route qui s'est peu à peu constituée parce qu'à force de voyageurs, de carrioles et de troupeaux pour l'emprunter, mais une route vraiment construite avec des remblais, qui a demandé un travail d'ingénieur et ensuite de travaux publics. C'est pour ça que je dis une autoroute. Eh bien, ce thème-là de la route chaussée remblayée que Dieu prépare, il revient dans tout le livre d'Ésaïe, aussi dans la dernière partie 40 à 66. Et il y en a encore d'autres, mais je vous indique ces choses pour que vous saisissiez la richesse des images qu'emploie le prophète et le soin avec lequel il a composé son livre, reprenant ses divers motifs pour constituer une belle tapisserie bien unifiée et ordonnée dans sa diversité. Dans ces chapitres 7 à 12, c'est la menace des Assyriens qui est le fait politique qui ressort avec le plus de netteté, c'est la grandeur, si vous voulez, qui apparaît sur l'horizon, mais avec aussi toutes les conséquences pour les citoyens de Jérusalem. Quelles sont leurs réactions devant cette menace assyrienne? Que font-ils? C'est le contexte historique de ces chapitres 7 à 12. Il n'y a cependant pas que des choses à court terme qui y soient contenues. Dans cette situation, le prophète reçoit la promesse de la venue de quelqu'un auquel il donne le nom d'Emmanuel et dont il prophétise de grandes choses. Et ce sont ces prophéties concernant Emmanuel qui, dans ces chapitres 7 à 12, sont les éléments les plus précieux pour notre foi, pour notre lecture de chrétiens. Car ces passages annoncent en fait notre Seigneur Jésus, dont l'ange, lorsqu'il a annoncé cette naissance, a bien précisé qu'il accomplissait en effet ses promesses. Alors nous allons les voir, ces passages principaux sur l'Emmanuel. Nous nous concentrons maintenant sur eux, je vais vous les indiquer. Et puis, s'il reste un peu de temps, nous verrons d'autres éléments ensuite, mais autrement non, je laisserai quand même quelques temps aussi pour les questions. C'est au chapitre 7 que le nom d'Emmanuel est prononcé pour la première fois. Et il faut bien se rendre compte de la situation très très précise et concrète que nous brosse le début de ce chapitre. Sous le règne d'Achaz, fils de Jotham et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, il n'était pas encore roi tout à fait en titre, mais il avait pris le pouvoir, de fait. Il était régent avec le pouvoir, donc c'est déjà son règne. Sous le règne d'Achaz, fils de Jotham et petit-fils d'Ozias, vers 735 avant Jésus-Christ, Retsin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Pekar, fils de Remaliahu, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent la vaincre. Quand on apprit à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position au territoire éphraïmite, le roi et tous ses sujets furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent. Quelle est la situation? Je vous rappelle la carte de la région. Très rapidement, ça c'est la Méditerranée. Voilà la mer Morte. Ici, Jérusalem ici, Israël avec comme capitale Samarie au nord, le Jourdain que vous avez vu ici, les Syriens, capitale Damas, occupent la région au nord-est, au-delà du plateau du Golan, vous savez qu'on en parle encore aujourd'hui, et puis les Assyriens sont la grande puissance ici en Irak, et déborde le territoire de l'Irak actuel. Achaz est l'homme du parti pro-assyrien. Il a bien vu que les Assyriens sont les plus forts à cette époque de l'histoire, et il se dit, il faut être dans leur petit papier, c'est ça qui est le plus sûr. Mais les Israélites de Samarie et les Syriens, eux qui ont peur des Assyriens, essayent de susciter une grande ligue contre les Assyriens, de tous les petits peuples alentour. Et ils font pression sur Jérusalem pour que Jérusalem, Juda, se joigne à cette coalition des petits peuples contre les Assyriens. Achaz ne veut pas, et Esaïe non plus ne veut pas, au nom de Dieu, parce que pour le peuple de Dieu, pas d'alliance avec les païens. Et les Syriens sont des païens, comme les Assyriens. Mais Achaz, lui, ne veut pas parce qu'il est allié avec les Assyriens, qui courtisent la faveur des Assyriens. Et alors, en 735, la situation devient très critique pour lui, parce que les Assyriens, ils sont les plus forts, mais ils sont loin. Or, les Syriens, avec Retsin à leur tête, et les Israélites du royaume du Nord, avec Samarie comme capitale, et Pekah comme leur roi, leur chef, ont décidé de se mettre en campagne pour réduire à leur merci le petit peuple de Juda, le roi Achaz. En fait, ils ont déjà prévu de le remplacer. Ils entrent en campagne, contre Judas qui se veut allié des Assyriens. Et lorsque le roi Achaz à Jérusalem entendirent les troupes de Syrie et les troupes d'Israël, Ephraïm c'est la tribu principale d'Israël, ont déjà fait leur jonction, ils se préparent à attaquer. Lui qui avait compté sur les Assyriens, il devient très très nerveux. Il nous est dit, furent tous secoués, frissonnants comme les arbres de la forêt sous le vent. Alors dans cette situation, l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Achaz, toi et Shéar-Yachouv, ton fils. » C'est-à-dire, il avait un fils auquel, par ordre de Dieu, il avait donné le nom de « Un reste reviendra ». C'est un des oracles qu'il avait prononcé. « Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, « Écoute-moi, garde ton calme, n'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumant, devant la fureur de Retsin et de son pays, la Syrie, et du fils de Remaliahu, c'est-à-dire Pekar. La Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi, de concert avec Ephraïm et le fils de Remaliahu, et ils ont dit, « Marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabéel. » Ils avaient un roi pour remplacer Achaz. Mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Retsin qui est chef de Damas. Dans 65 ans, Ephraïm sera écrasé et n'existera plus en tant que peuple. La capitale d'Ephraïm, c'est Samarie, le chef de Samarie, c'est le fils de Remaliahu. Ça veut dire sans doute, ce n'est que ça, alors que le chef de Jérusalem, c'est le Seigneur. Si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. Le prophète dit donc au roi, tu as bien fait de refuser l'alliance que les Syriens et les Israélites de Samarie veulent imposer. N'entre pas dans leur coalition, c'est bien, ils ne feront rien contre toi. Ces deux bouts de tison fumant, et ils sont en train de finir de brûler. Il n'y a plus de force qui reste en eux. Donc, n'aie pas peur d'eux, non, en effet. Mais si vous n'avez pas confiance en moi, vous ne tiendrez pas. Ça, c'est un avertissement à propos de la politique qu'Achaz veut mettre en œuvre d'alliance avec les Assyriens. Il y a un jeu de mots, en fait, dans l'original, que la Bible du Semeur n'a pas essayé de rendre. C'est la même racine verbale qui est employée deux fois. Et moi, j'aime traduire, comme la Bible de Jérusalem, « Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. » La Bible à la colombe, elle aussi, a essayé de rendre le jeu de mots. « Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. » Si vous ne prenez pas le Seigneur pour appui, si tu prends pour appui les Assyriens, en fait, tu ne tiendras pas. Ce sera trompeur. C'est un avertissement en même temps, un encouragement par rapport à l'attaque des Syriens et Samaritains, mais un avertissement. Et le roi le comprend très bien, parce que l'Éternel continue, l'Éternel parle de nouveau à Achaz et dit « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Dieu, par la bouche du prophète, lui propose un miracle pour mettre en quelque sorte un sceau à la promesse qui vient d'être faite. Tu n'as rien à craindre des Syriens, seulement mets ta confiance en moi seul. Il lui propose un miracle pour authentifier cette parole. Et alors, que répond le roi Achaz ? Je n'en demanderai pas, je ne veux pas provoquer l'Éternel. Traduit autrement, je ne tenterai pas l'Éternel. C'est une réponse hypocrite, une réponse faussement pieuse. Il reprend l'expression « tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Mais en fait, c'est qu'il sait très bien que s'il y a un miracle, et il croit au miracle, hein, il sait bien que Dieu peut faire un miracle. Mais il sait très bien que s'il y a un miracle, alors il sera coincé, qu'il ne pourra plus mener sa politique. Tout le peuple aura vu le miracle produit par Dieu et il faudra qu'il s'en tienne à la seule confiance en Dieu, ce qu'il ne veut pas. Alors, voyez, il s'en tire par cette réponse tordue. Et alors, Ésaïe, à ce moment-là, réplique. « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes, pour qu'il vous faille encore lasser aussi, mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais il n'y en a eu de tels depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. Il adviendra en ce jour-là que l'Éternel appellera par un coup de sifflet les mouches qui sont à l'extrémité des fleuves de l'Égypte et les abeilles d'Assyrie. Elles viendront se posant dans toutes les ravins abrupts, dans toutes les fentes des rochers, dans tous les fourrés broussailleux et tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à gage au-delà de l'Euphrate. Il s'agit du roi d'Assyrie. Oui, il vous rasera la tête et tous les poils du corps. Et il vous coupera aussi la barbe. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est ça le premier grand oracle. Tu refuses un miracle, Achaz, et tu montres ainsi que tu te détournes de la voie de Dieu. Eh bien, Dieu va prendre l'initiative, lui, de produire un signe. Il ne sera pas frustré, bloqué dans la réalisation de ses desseins par ton mauvais vouloir. Un enfant va naître. Un enfant va naître, il sera tout différent de toi. Il sera Dieu avec nous. Alors que ta devise à toi, ce serait plutôt « Je me débrouille sans Dieu ». Dieu avec nous. Emmanuel. Ce sera un enfant qui vivra dans l'intimité de Dieu. Se nourrir de crème et de miel dans la petite enfance jusqu'au temps du discernement du bien et du mal, ce qui veut dire l'âge de la responsabilité, c'est une expression qui semble désigner la communion intime et libre avec Dieu. La crème et le miel, ce sont les aliments de terre promise. Et aussi dans les peuples alentours, les aliments des dieux. Il connaîtra donc une parfaite intimité avec Dieu, cet enfant. Et il naîtra d'une jeune fille. Car le mot qui est employé ici, il veut dire jeune fille. Il ne veut pas dire jeune femme, contrairement à ce que certaines versions indiquent. Il naîtra d'une jeune fille, c'est là qu'il y aura un miracle extraordinaire. Parce que c'est une jeune fille pure, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Il naîtra d'une jeune fille. Ce qui est un jugement contre Achaz. Ça veut dire que ce ne sera pas ton fils à toi. Déjà, un jugement contre Achaz. Dieu va accomplir son plan. Quelqu'un viendra tout différent de toi, et on peut comprendre que cela s'inscrit, on peut comprendre aisément, puis la suite va le confirmer, que ça s'inscrit dans la promesse faite à David, que viendrait un descendant qui naîtrait de sa famille et qui siégerait sur son trône dans la paix et dans la justice. Le prophète dit, eh bien Dieu va amener ce descendant promis qui sera tout différent de toi, Achaz, qui sera Emmanuel, mais ce ne sera pas ton fils, il naîtra d'une jeune fille, par un grand signe que Dieu produira lui-même. Mais avant que cela arrive, bon, d'une part, les deux pays que tu redoutes, ils seront complètement dévastés, on n'en parlera plus. Mais avant que ça arrive, surtout les Assyriens, qui sont tes amis, ils vont déferler sur le pays. Ils vont tout raser, comme un rasoir qui passe sur tout le corps. C'est ça, en résumé, ce qui est l'annonce de cette parole. Certains ont essayé de voir dans l'enfant Emmanuel un enfant de l'époque d'Ésaïe, mais à mon avis, ça ne colle pas. Ça ne colle pas parce qu'il n'y a eu aucune jeune fille qui ait été enceinte d'une manière pure et légitime et qui ait enfanté un fils. Aucune au siècle d'Ésaïe. C'est un miracle qui ne s'est pas produit à ce moment-là. Il n'y a pas eu non plus cette situation qui est décrite d'un enfant vivant dans la communion intime du Seigneur les premières années de sa vie. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la prophétie vise d'abord quelqu'un du siècle d'Ésaïe, parce qu'elle ne s'est pas accomplie. Elle ne s'est accomplie qu'en la personne de Jésus, qui est née d'une jeune fille pure, Marie. C'est vraiment une prophétie qui annonce précisément la venue au monde surnaturelle de notre Seigneur Jésus. Alors nous sommes un petit peu surpris du grand décalage dans le temps, reconnaissons-le. C'est dans une situation historique bien déterminée, je vous l'ai présenté, qu'il est question d'un signe pour confirmer la parole à Achaz, Et puis en fait, ça a pris plus de 7 siècles avant de se réaliser cette venue de l'enfant. Alors à ce propos, il me semble que nous pouvons faire deux remarques essentiellement. La première, c'est que le prophète, lui, ne sait pas quel est l'intervalle. Ce qu'il affirme à Ahaz, c'est qu'il sait que Dieu va envoyer ce fils de David attendu, et qu'il le fera par le miracle d'une naissance virginale, mais il ne sait pas combien de temps ça va prendre. Pour lui, ces choses sont comme présentes, en tout cas proches, puisque le Seigneur lui en donne la certitude, mais il ne savait pas que c'était 7 siècles. Ça c'est vrai. Et dans le fond, l'intervalle n'importe pas tellement. Du point de vue du sens du texte, ce qui était important, c'est que Dieu ne se laisse pas bloquer par le refus d'Ahaz. Que Dieu n'est pas frustré dans l'exécution de ses desseins, lors même que les hommes sont infidèles. C'était un fils de David, Ahaz, hein? Il était de la descendance de David. Et pourtant, il se conduit très mal. Mais ça ne va pas empêcher Dieu d'accomplir la promesse faite à David. Alors que ce soit 50 ans plus tard ou 750 ans plus tard, finalement ça change relativement peu. Voyez. Mais ça c'est le premier élément qu'on peut faire valoir, me semble-t-il, à ce propos. Je pense qu'on peut faire valoir d'autres considérations encore. Dans le texte même, c'est quand même projeté dans un avenir assez lointain, relativement lointain, puisque l'assistance du prophète, c'est que avant que tout ça n'arrive, il y aura toutes les dévastations que les Assyriens vont commettre. Donc c'est quand même projeté d'une manière assez lointaine dans ce schéma de la prophétie du chapitre 7. Voilà l'essentiel de ce qu'on trouve dans cette première prophétie. Au chapitre 8, alors nous avons encore des choses fort intéressantes, et le nom d'Emmanuel est réutilisé une fois, mais juste dans l'expression « ton pays, ô Emmanuel, ta terre ou ton pays, Emmanuel », au verset 8, chapitre 8, verset 8, il est dit des Assyriens, comparé à un grand fleuve dévastateur, il pénétrera en Juda, il inondera, le submergera, il lui montera jusqu'au cou, et le déploiement de ses flots couvrira toute l'étendue de ton pays, Emmanuel. Ce qui suggère aussi le rang royal pour Emmanuel, c'est son pays. Mais il n'y a pas un oracle plus détaillé qui concerne Emmanuel dans ce chapitre 8. Le deuxième grand oracle concernant sa personne, c'est au chapitre 9 qu'on le voit. Là, le nom n'est pas employé, mais c'est clairement le même. L'enfant à naître, au chapitre 9, à un moment où déjà les Assyriens, c'est sans doute un peu plus tard que l'oracle a été prononcé, pas en 735, mais un peu plus tard, au moment où les Assyriens ont déjà commencé de dévaster ce pays, la Galilée, qui faisait partie du territoire du royaume du Nord, d'Israël. À la fin du chapitre 8, il est dit « Il n'y aura pas toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, c'est-à-dire la Galilée, région là, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des nations païennes, toute cette zone-là, celle où Jésus est né, celle où Jésus a accompli la plus grande part de son ministère. Le peuple qui vivait dans les ténèbres, ces gens qui ont été affligés par les dévastations des Assyriens et leurs descendants, verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerriers qui martèlent le sol et tout manteau qu'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Son royaume, sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Vous voyez, c'est ce que je vous annonçais. Là, il est bien clair que c'est le Messie attendu, le fils de David, qui doit régner éternellement sur le royaume de David, son ancêtre. Mais ce qui est le plus frappant pour annoncer la venue, ce qui est le plus frappant, c'est le nom qui lui est attribué. Un nom quadruple, quatre paires de termes dans l'original, et c'est bien rendu dans la Bible du Semeur. Prince de la paix, oui. C'est en deux mots seulement en hébreu. Prince-paix. Prince de la paix, ce qui correspond au thème général du passage, mais aussi merveilleux conseiller. Le mot merveilleux a un sens très fort dans l'Ancien Testament. C'est ce qui dépasse les pouvoirs humains. Ce qui est, en langage philosophique d'aujourd'hui, transcendant. Dieu fort, père à jamais, père d'éternité, pour un enfant. Je ne vois pas comment on peut comprendre ce passage sans reconnaître qu'il annonce que l'enfant attendu, le Messie à venir, sera plus qu'un homme, ne sera pas seulement le descendant de David. Et il n'y a qu'à voir l'embarras des commentateurs juifs au fil des siècles, et même encore des traducteurs aujourd'hui, pour se rendre compte que c'est vraiment un texte d'une très grande force pour annoncer que Jésus, Emmanuel, allait être plus qu'un homme, allait être Dieu lui-même, le Dieu fort, descendu parmi nous comme un petit enfant. Et puis vous avez un troisième grand passage, qui est celui du chapitre 11, où cette fois, il n'est plus présenté comme un enfant, mais où l'image de l'enfance est quand même encore présente, car c'est un rejeton qui jaillit de la souche depuis longtemps en terre de l'arbre abattu de la dynastie davidique. Les versets qui précèdent, à la fin du chapitre 11, ont cette image du jugement de Dieu comme d'une hache qui abat toute la forêt orgueilleuse du Liban. Il tranche avec la hache, le Liban s'effondre sous les coups du puissant. Les grandes familles, les grandes dynasties, comme des arbres abattus. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, le père de David, c'est-à-dire donc la famille de David. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. Voilà aussi ce qui nous montre que ça devait prendre du temps, que la famille de David soit abattue, qu'il ne soit plus que comme une souche en terre après jugement. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences, il n'arbitrera pas d'après des ouï-dires. Il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera en faveur des pauvres du pays selon le droit. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère pètera aux côtés du chevreau, le veau, le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, leurs petits auront un même gîte, le lion et le bœuf se nourriront de paille, le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte. Toute la terre alors connaîtra l'Éternel, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et la venue de celui qui était un petit enfant au chapitre 9, qui est maintenant un roi qui règne avec justice, l'Esprit reposant sur lui, cette venue-là assure une plénitude d'harmonie sur la terre entière. C'est le règne qui est annoncé de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors la deuxième partie du chapitre joint cette annonce du règne d'Emmanuel, c'est toujours lui, avec la promesse du nouvel exode, d'une libération comme celle que Dieu a faite la première fois lorsqu'il a libéré Israël d'Égypte. Il adviendra en ce jour-là que le descendant d'Isaïe se dressera comme un étendard pour les peuples et toutes les nations se tourneront vers lui et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Ce jour-là, le Seigneur interviendra une seconde fois pour libérer le reste de son peuple qui aura subsisté en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, Élam, en Babylonie, à Hamath, dans les îles et les régions côtières. Il dressera son étendard pour les nations. Quant aux exilés d'Israël, il les rassemblera et les dispersés de Juda, il les regroupera des quatre coins du monde. Un nouvel exode, car le Seigneur interviendra une seconde fois, ça se rapporte à la première fois de l'exode. Dieu avait libéré son peuple d'Égypte. Cette fois, c'est d'un exil dans tous les pays alentours que le nouvel exode les tirera. Et puis pas seulement pour des Israélites, pour toutes les nations qui deviendront à son peuple en se tournant vers lui. Ce qui montre que ce n'est pas seulement un retour géographique de l'exil, que le nouvel exode est un nouvel exode spirituel, où il s'agit d'être délivré non seulement d'une captivité terrestre, mais de la captivité du péché, de la culpabilité, de la condamnation. On voit d'ailleurs à la fin du chapitre, et puis j'achève là-dessus, je n'ai pas pris encore tout à fait une heure, mais je crois qu'il faut quelques minutes de questions. Au verset 15, nous avons « L'Éternel assèchera le golfe de la mer d'Égypte, il lèvera la main pour menacer l'Euphrate, et par son souffle impétueux, il brisera ce fleuve en sept ruisseaux. » C'est son souffle, on peut traduire aussi son esprit, comme le font d'autres versions. Ce qui était seulement un vent violent du désert, dans le récit du premier Exode, devient le souffle de Dieu lui-même, dans ce nouvel Exode qui est ici en cause, ce qui montre qu'il y a une transposition sur le plan spirituel. C'est l'Esprit de l'Éternel qui va opérer, lui qui repose sur Jésus-Christ, qui va opérer cette délivrance dans la vie de tous ceux qui se tourneront vers lui. Je vous signale que ce chapitre 11, verset 1er et verset 10, donc c'est bien la preuve que l'interprétation que je vous dis est juste, ces versets 1 et 10 sont cités par Paul dans Romains 15 comme preuve que maintenant dans l'Église, les Juifs et les païens jouissent ensemble de l'accomplissement des promesses. Le fait que ce soit les nations qui se tourne vers le rejeton d'Isaïe, qui est l'étendard de leur foi, ce fait-là est considéré par Paul comme accompli dans l'Église, où il y a des gens venant des nations, comme venant du judaïsme. L'apôtre Paul applique à la situation de l'Église ces versets, montrant qu'il faut bien comprendre que c'est un nouvel exode spirituel qui s'accomplit en notre faveur. Voilà donc un petit survol des prophéties de la première partie du ministère d'Ésaïe. Alors, je ne sais pas si vous avez une ou questions à poser. Oui, M. Gendrel.
Oui, je voudrais revenir sur un problème de traduction dans le chapitre 7, verset 14.
Oui, oui. Oui. Alors, le mot qui est employé au chapitre 7 et au verset 14, comme vient de le préciser M. Gendrel, c'est le mot hébreu « alma ». « Alma », qui est la forme féminine d'un mot qui existe aussi au masculin, « elem », désignant un adolescent. C'est à peu près la traduction qui serait la meilleure pour le masculin. La version faite par les Juifs avant la venue de Jésus, de ce passage, la version dite des Septante, a traduit par un mot en grec, parthénos, qui signifie vierge. Ce qui semble montrer que ces Juifs de l'époque, qui devaient quand même savoir assez bien l'hébreu, avaient donné le sens de jeune fille, et en pensant qu'elle devait être vierge, à ce terme alma. Mais par la suite, des gens ont contesté que ce soit le sens juste de ce terme. Pourtant, Matthieu, lui, qui cite la version grecque, puisqu'il écrit en grec, souligne précisément cela à propos de Marie, que c'est parthénos, elle était une vierge, elle était seulement fiancée, donc elle n'avait pas connu d'homme. Et il utilise ce terme et cette prophétie, il la cite. Mais beaucoup de gens, après, ont contesté en disant, en fait, Alma veut dire jeune femme, simplement. Et donc, ce n'était pas forcément Marie, c'était déjà une femme de l'époque d'Ésaïe qui était en cause. Ça a déjà été dit par un certain rabbin, Tryphon, surnommé le juif, qui discutait avec un des premiers pères de l'Église, Justin Martyr, au milieu du IIe siècle. Et puis ça a été redit par beaucoup d'autres, et c'est redit aujourd'hui par un certain nombre de spécialistes, de savants critiques, et ça se retrouve dans un certain nombre de traductions aussi. J'ai étudié ce dossier avec l'aide de spécialistes évangéliques, moi je ne vais pas m'appeler un spécialiste, mais en particulier ce très grand savant qui enseignait à Philadelphie, Edward Young, et je suis persuadé que ces savants critiques d'aujourd'hui qui traduisent « jeune femme » ont tort que ce n'est pas « jeune femme » qui est le sens de ce mot. Et j'aime citer à ce propos, le débat il est vieux, hein, il dure depuis des siècles, ce que Luther avait dit. Luther avait parié 100 florins que personne ne pourrait prouver que Alma signifie jeune femme. Et comme le disait celui qui citait cela, c'était Wilhelm Fischer, en notre temps, c'est comme ça que je sais que Luther avait lancé ce défi et ce pari. Les héritiers de Luther peuvent dormir tranquilles. Personne n'a réussi jusqu'à ce jour à montrer que Alma peut avoir le sens jeune femme. Il y a 7 ou 8 occurrences du terme Alma dans l'Ancien Testament. Pour aucune d'entre elles, on ne peut prouver que c'est une jeune femme. Dans plusieurs cas, c'est clairement une jeune fille. Dans 2 ou 3 cas, on peut se demander, c'est pas clair dans le contexte, mais nulle part, il n'est prouvé que ce soit jeune femme. Alors, avec l'autorité de cette traduction ancienne faite par des juifs en langue grecque, avec cette batterie de textes de l'Ancien Testament, je conclus que Luther a raison, que c'est jeune fille qui est la traduction la plus juste. Alors, j'étais revenu un petit peu là-dessus. Sur ces prophéties, je vous signale que j'ai publié il y a maintenant un certain nombre d'années, hein, une douzaine d'années, quinzaine d'années, je ne sais plus, mais une série d'articles dans le christianisme au XXe siècle sur ces prophéties de l'Emmanuel. Donc vous trouverez plus en détail ce que j'ai résumé aujourd'hui, y compris la discussion sur Alma. Oui, mademoiselle Ferrand. Je pense qu'il y en a eu. Je pense qu'il y en a eu parce que vous savez. Oui. Donc, mademoiselle Sorrent demande s'il y a eu des rabbins juifs qui, lisant le prophète Ésaïe, ont reconnu que Jésus était le Messie annoncé. Alors, je ne peux pas vous en citer qui, simplement en lisant le texte, l'aient reconnu, mais je veux souligner un fait qui est trop ignoré, c'est qu'au fil des temps, il y a eu un nombre important de juifs qui ont reconnu que Jésus était vraiment celui qui devait venir. Nous avons toujours l'impression que les juifs refusent, mais... Oui, c'est vrai d'une majorité, mais il y a quand même, dans le courant de l'histoire de l'Église, des centaines, des milliers, et de docteurs, de gens très instruits du judaïsme, qui se sont convertis et qui ont fait un bien fou, d'ailleurs, après ça, par leur témoignage dans l'Église chrétienne. Donc, je suis persuadé que ça a joué un rôle, en tout cas, important. Notre frère, M. Guggenheim, parle parmi nous assez souvent, vous le connaissez bien. Je pense à un homme qui a fait un très gros travail utilisant une connaissance du Talmud qui était tout à fait hors pair, Alfred Edersheim, dont les 2 gros volumes sur la vie et les temps de Jésus le Messie, je les ai en anglais, je les ai chez moi, je les utilise encore, bien que ce soit un ouvrage de plus d'un siècle. Très très beau texte, et il s'était converti avec un arrière-plan du judaïsme par la force du témoignage des Écritures. Monsieur Berger.
Il y a seulement aux États-Unis beaucoup d'églises
judéo-chrétiennes. Oui. Il y a donc, je répète aussi, donc il y a aux États-Unis beaucoup d'églises judéo-chrétiennes, mais vous savez l'expression même de judéo-chrétienne. Si cela veut dire qu'ils sont unis des juifs et des juifs d'adoption par grâce, que sont d'anciens non-juifs attachés à Jésus, que nous sommes. Alors il faut dire que notre Église aussi est judéo-chrétienne. Bon, on réserve parfois le terme à des églises où il n'y a presque que d'anciens juifs, ou des juifs de naissance qui sont venus à la foi. Le mouvement des juifs pour Jésus, Jews for Jesus en particulier. Et je rappelle que nous avons à prier pour la femme de notre frère Alain Tadjin, qui est juive, venue d'Amérique. Et moi, je crois que le Seigneur veut qu'elle découvre qui est vraiment Jésus. Mais il nous faut encore prier tous. J'ai le sentiment que le Seigneur veut faire une œuvre en elle. Oui.